on a eu une initiative qu'on trouvait intéressante pour analyser méthodologiquement un plan climat qui consistait à comparer l'acceptabilité d'un plan climat à celle d'un programme alors qui n'a rien à voir avec le climat mais qui concerne la santé, qui s'appelle le programme EPOD. EPOD, ça veut dire quoi déjà?
En gros, l'idée, c'est que par rapport à l'acceptabilité sociale des plans climat, on s'est dit comment faire pour qu'une population puisse prendre en compte ce changement et ces changements d'habitude qu'on lui demande, ces changements de comportement. N'y a-t-il pas eu des expériences dans d'autres domaines où on a demandé aux populations, ou en tout cas on les a impliquées, pour des changements lourds de comportement? Et ce programme qui touche à la santé publique, qui est lié au fait de pouvoir, en travaillant avec les acteurs locaux, et on le décrit dans le document commun, et en appliquant finalement des techniques de marketing social, aboutir à des changements de comportement sur la nutrition pour lutter contre l'obésité des enfants. Et donc finalement, quand on demande à des populations de changer des comportements de la vie extrêmement intime, changer ma façon de vivre, ma consommation d'énergie, c'est presque aussi changer ma façon de vivre, ma nutrition. Voilà, on a essayé de faire un parallèle et de se dire pourquoi ne pas aussi se poser la question comme ça, aussi tout en avec tous les compléments apportés par ailleurs et écrits par Claire sur les éléments normatifs, territoriaux, les problématiques plus... Voilà. Moi j'ai un biais de communicant, donc je me suis posé la question, comme un communicant, si j'avais à vendre quelque part un plan climat et des changements de comportement à une population, comment je ferais du point de vue de la communication et de la façon de vendre ça à une population.
Voilà. Donc du coup, vous avez regardé ou comparé les outils de marketing social qui étaient utilisés dans les démarches qui étaient utilisées dans le cadre de ce programme EPOD, et vous les avez comparés avec...
Sur lesquels un certain nombre de villes se sont déjà engagées, on les a comparées, on s'est dit finalement qu'est-ce qu'on pourrait en tirer dans une démarche d'une ville pour un autre sujet.
Et juste, pardon, une question. Les plans climat territoriaux, tels que vous les avez analysés, comprenez déjà des éléments de marketing social, comme tu dis.
Pas tellement, justement. C'est un peu ça qui m'avait percuté, c'est-à-dire que dans toutes les présentations qu'on a eues, extrêmement intéressantes, j'avais le sentiment qu'on oubliait finalement cette partie de démarche auprès des populations et se dire, peut-être pas complètement, parce que c'est vrai que sur Paris, par exemple, Yves Cantasso nous a expliqué qu'il y avait eu des comités locaux, des comités de population, mais finalement extrêmement... réduit, qui avait plutôt servi à faire émerger les besoins, les envies ou les façons dont les gens se disaient oui, tiens, pourquoi pas, plus que, allez, maintenant on y va, plus que dans la démarche d'application qui, c'est vrai que j'en parlais, pas aller très très loin.
Pardon, ça c'est un point, je pense, très important sur lequel il faudra qu'on revienne dans le débat. Parce que...
Ça sera dans le débat surtout à la fin, parce que en l'occurrence, les potes, je ne maîtrisais pas trop la parole PowerPoint, vous n'allez pas le retrouver, c'est surtout. Le PowerPoint, le but du jeu, c'est quand même de mettre en évidence la hiérarchisation et la stigmatisation sur les problèmes. Ça n'apporte pas de solution, en l'occurrence. Et ça va venir après. C'est par quel point on peut changer, comment on peut changer la façon d'appréhender un plan climat territorial.
Oui, enfin, je voulais juste faire cette remarque. Il me semble que c'est une question générique dans toutes les démarches d'aménagement du territoire ou de planification, où on a des outils de plus en plus sophistiqués, voire usines à gaz, de concertation en amont. de concertation en amont.
Voilà.
Effectivement, où il s'agit de faire sortir les besoins, les envies, etc., etc. Mais on a très peu d'accompagnement en aval sur tout ce que vous appelez effectivement l'acceptabilité sociale. Donc c'est vrai sur les plans climat, à mon avis, et vrai d'une manière générique sur les SCOT, sur les schémas régionaux, etc., etc.
Sachant que le plan climat, par rapport au document que tu cites, a une particularité, c'est qu'il intègre en lui-même son propre développement. C'est-à-dire que je parle de celui que je connais mieux, évidemment, mais le plan climat parisien affiche un certain nombre d'objectifs, justement, de diffusion, une fois que le plan est élaboré, c'est-à-dire qu'il y a quand même plusieurs phases. Il y a une phase d'élaboration qui a été une phase d'élaboration assez... concertative, mais bon, dans les limites de ce qu'on peut faire évidemment, mais quand même assez généreuse. Et dans la rédaction, l'outil en lui-même est en fait un recueil de ce qu'il faut faire. Reste après la question, et c'est ça le problème du plan climat, c'est est-ce qu'on arrive à faire ?
Non, bah, le verdict a été clairement non. C'est la temporalité du plan climat par rapport au mandat législatif des différents acteurs et décideurs.
Voilà.
Enfin,
mais voilà,
du législateur, pour être très clair.
On va peut-être passer directement à la présentation, puis on lancera la discussion.
On peut lancer des commentaires à tout moment.
Bernard Laponche nous a accepté de se joindre à nous ce matin pour nous jouer le rôle de grand témoin. On lui demandera, il a eu le grand privilège de lire notre document et de l'accepter en l'état. En tant qu'expert international sur les politiques énergétiques, de nous donner son avis à la fois sur la façon dont on a posé la question, les questions ou les conclusions auxquelles on est arrivé là, et puis évidemment tout ce que vous voulez après.
Vas-y, Jacques. Pas trop de messe basse, s'il vous plaît, parce que comme il n'y a pas de micro.
Donc voilà, on va revenir sur des choses qu'on a déjà vues ensemble. Je pense que c'est le deuxième slide. Il y a des endroits où je risque de passer un petit peu plus vite, parce que quand on structure, on est toujours pareil. Donc, une prise de conscience favorable, on revient tout le temps sur des lois SRE, les engagements 3x20, le facteur 4, le grenier de l'environnement. Enfin, je veux dire, tout au long de l'année, on l'a entendu. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. Mais à ce niveau-là, il y a peut-être une chose qu'il faut, encore une fois, on a bien stigmatisé sur le changement climatique. Et je pense que là, dans le cadre du plan climat, il faut qu'on stigmatise surtout sur les ressources. Le vrai problème, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, quelle que soit la position dans laquelle on est, le problème auquel on va être confronté quand même, ça va être la réflexion des ressources. Donc les spécificités des territoires et les enjeux associés, donc la durabilité des ressources naturelles globales et la valorisation des ressources locales. Donc là, il y a un vrai axe à prendre en compte. La contribution du territoire aux objectifs nationaux de lutte contre le changement climatique. Donc là, on parle du phénomène d'embattement. Et l'impact social des évolutions du contexte énergétique. Alors, en toute fin de présentation, je vous présenterai une étude qu'on va sortir sur la précarité énergétique dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous allez la voir, je vous demande juste de ne pas la diffuser pendant les 15 jours qui viennent, parce qu'elle doit sortir que dans un peu de temps, vous avez la primeur là aujourd'hui. Et ensuite, les besoins de cohérence. Donc, en termes d'emboîtement au niveau des différentes mailles et échelles régionales. Donc là, il y a une chose importante, c'est le projet de loi du Grenelle 2 sur lequel effectivement il faut s'arrêter sur l'article 26 et l'article 23. C'est actuellement au Sénat et normalement ça devrait sortir et donc ça va être gravé dans le marbre, ça va être la loi. Donc un bilan de gaz à effet de serre sur toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, les établissements publics de plus de 250 employés, toutes les personnes morales de plus de 500 employés, donc les entreprises de plus de 500 employés, et toutes les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants doivent élaborer un plan climat-énergie territorial sur la base d'un bilan GES. Donc, ça veut dire qu'à partir de ça, une fois que c'est voté, vous allez tous y passer. Article 23, donc, c'est les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, donc un document stratégique fondé sur un bilan plus précis des GES et de la gestion des GES et on va dire plus que juste des gaz à effet de serre, il y a aussi l'air et tout un tas de choses, la biodiversité, la santé qui sont en compte. Alors grosso modo, j'ai un petit rappel, c'est à quoi, quelles sont les grandes étapes et qu'est-ce que c'est qu'un plan climat territorial. Donc d'abord, on commence par, normalement, enfin ça c'est une logique dans laquelle vous devriez tous rentrer, donc c'est un état des lieux du territoire, donc d'abord un diagnostic, faire une photo de qui consomme, qui est né, quel secteur, quelles sont les particularités de chaque territoire à prendre en compte. À partir de là, on va essayer de définir les grands enjeux. Alors vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, il y a quelques exemples sur le bâtiment en l'occurrence. Bon, vous allez voir, vous avez que 30% du parc et en fait la vraie problématique, c'est pas forcément les immeubles, c'est reste essentiellement le résidentiel sur lequel les collectivités locales et territoriales n'ont pas la main en l'occurrence. Donc voilà, ça c'est un vrai problème. Ensuite, On rentre dans une logique d'appropriation, donc c'est ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire quand même au niveau des élus, du système décisionnaire, qu'on commence à s'approprier la question et les enjeux et comment on les met en place. Ensuite, il y a une partie de prospective, donc les futurs possibles, les grands enjeux. Donc tout ça aussi en fonction des particularités de chaque territoire, j'insiste là-dessus, quelle que soit la maille de la commune, du club, en passant par la région, parce que c'est différent en fonction de la zone choisie. Élaboration d'un plan d'action, donc là c'est, on revient sur ce qu'on est en train d'évoquer juste avant, l'alimentation de la concertation, la participation élargie, l'engagement politique. C'est vrai qu'à ce niveau-là, ça se fait de façon un peu systématique jusqu'à maintenant, mais en général ça s'arrête là. Un plan climat. Alors que là, on n'est pas dans le plan climat, on est dans le pré-CAG et l'élaboration d'un plan climat. Ensuite, il y a la programmation, donc définition d'objectifs, montage opérationnel et engagement des acteurs. Donc là, on rentre dans du formel et on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. Et j'ai rajouté une chose, parce que c'est un peu ce sur quoi on va stigmatiser sur toute la présentation, c'est l'action et la mise en place d'outils de suivi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans tous les plans climat qu'on a vus, systématiquement, ça s'est arrêté à la phase concertation et mise en avant des enjeux. Alors là, j'ai peut-être laissé la main à Vincent, parce que là, je le maîtrise moins. Donc ça, on va vous reprendre les deux présentations rapides et un peu le constat qu'on avait fait sur la présentation du plan climat du Pays Barois. Donc il y avait, voilà, il y a un contexte particulier quand même, le Pays Barois, qu'il faut quand même évoquer. C'est pourquoi il a été le premier plan climat à cette échelle à être fait. C'est qu'il y a un grand donateur qui s'appelle le DF. Qui a participé, c'est en fait c'est la zone sur laquelle vont être enfouis les déchets radioactifs en grande profondeur dans cette zone, pour être très clair. Donc forcément...
ça va créer un microclimat.
Il y a un sacré microclimat, c'est clair. Un afflux d'argent, des possibilités, des ouvertures. Enfin, Vincent, tu m'arrêtes, hein, c'est quand même...
Oui, non, mais tout à fait ça. C'est aussi pour ça que le Conseil général de la Meuse, depuis déjà pas mal d'années, a voulu, pour des raisons un peu politiques et de marketing territorial, travailler aussi sur les énergies nouvelles, pour qu'il n'y ait pas que l'image de l'équipement Areva qui soit attaché au département, et puis aussi parce que les conditions... socio-économiques sont favorables. La Meuse, comme j'ai entendu dire l'un des préfets, c'est 150 000 habitants en comptant les petits chats. Donc il y a beaucoup de place, il y a beaucoup d'éoliennes déjà, il y en aura encore plus. Et donc un certain volontarisme des élus. Et en même temps, pas forcément un relais au niveau des présidents de communautés de communes. C'est ce qu'on peut voir dans ce contexte-là.
Voilà. Ensuite, on va passer, je crois que c'est le plan climat Paris, une espèce d'analyse basée, voilà, ce que disait Pierre tout à l'heure. Une bonne partie de la pédagogie, incitation, la contrainte. Par contre, le vrai problème globalement qui est ressorti, c'est que la contrainte, elle n'est pas réglementaire et réglementairement possible. C'est-à-dire que, grosso modo, en fonction des différents mandats, il y a eu des lancements de plan climat, ça s'est arrêté à la fin de mandat, ça n'a jamais été relancé, c'est des choses qui sont compliquées, et ça a eu vraiment du mal à aboutir. Alors après, le contexte parisien est plus compliqué par rapport à la régionalisation, c'est-à-dire que Paris et l'Île-de-France en général, entre la gestion des déchets, qui transite, ainsi de suite, enfin, il y a eu tout plein de choses qui ont été mises en place. Donc voilà, donc il y a pédagogie assez faible. Et donc, grosso modo, il y a des difficultés sur le secteur Paris, spécifiquement sur le bâtiment. Enfin, l'Haussmannien, c'est très particulier à traiter. On ne peut pas parler de l'habitation. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. C'est la première destination mondiale. Il y a du tourisme et on ne peut pas toucher à la maquette et au village séminaire. Pour résumer, c'est un peu ça. Après, bon, on peut, ça coûte très cher et ça touche directement le patrimoine national. Enfin, je veux dire, on est dans une autre logique qui est juste la logique énergétique, financière et de développement durable, tout simplement. Alors, après, il y a des problématiques de transport qui sont évidentes parce qu'il y a un fort transit. Paris n'est pas forcément responsable, on peut dire la même chose de Lyon, des choses de ce type-là. Le fait que les banlieusards traversent régulièrement Paris, alors je suis incapable de venir de tête les chiffres, mais c'est assez monstrueux. Enfin, je crois qu'on l'a eu sur le brief la dernière fois sur la mobilité et un peu les échanges
en stock, en navette domicile-travail, il y a 900 000 banlieusards qui arrivent chaque jour pour travailler dans Paris. Mais en réalité, ça fait beaucoup plus. Ouais. Et 300 000 Parisiens qui sortent. Donc. Mais en réalité, en mouvement, ça fait beaucoup plus. C'est combien c'est hein.
Juste, puisqu'on est sur ce sujet-là, on voit à quel point le territoire, les limites du territoire, est une question. Là, on tombe en plein dans les questions Grand Paris. Voilà, Grand Paris, parce que c'est l'actualité par ailleurs, bien que la question du Grand Paris ne soit pas celle du plan climat. Mais on voit bien comme, en entrant naïvement avec notre plan climat, on a touché à tout un tas de choses concernant l'organisation institutionnelle et que, par exemple, à Paris, voilà, ça donne... on n'a pas forcément les réponses, l'outil n'est pas forcément adapté et on n'est pas forcément persuadé que les remaniements et les réformes territoriales prennent en considération ce genre de problème.
Juste là, sur la question territoriale, si on compare le pays barois et Paris, est-ce que dans le pays barois, du point de vue énergétique, on est sur un espace plus pertinent, justement, qui...
À quel point de
vue ? Justement, par rapport à tout ce que tu dis sur Paris, c'est-à-dire que le périmètre de Paris est extrêmement restreint par rapport à tous les mouvements qui traversent Paris et qui produisent des gaz à effet de serre. Donc, en fait... La ville de Paris en tant que telle ne maîtrise très très peu concrètement ce qui peut se passer sur son territoire. Par contre, est-ce qu'à l'échelle d'un pays clairsemé comme le pays barois, on peut avoir le sentiment d'avoir un peu plus de prise dès lors que c'est un territoire, alors je sais pas, plus cohérent, qui fonctionne comme un bassin de vie, un bassin d'emploi, donc dans lequel finalement on a moins ces problèmes de limites territoriales, ou est-ce que les questions sont les mêmes à peu près?
Non, moi j'ai l'impression que ce ne sont pas très différentes. Ce sont les mêmes. Juste pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, en plus de la stratégie des élus, il y a beaucoup d'argent dans ce contexte-là. Il y a les compensations d'Areva. Et puis, comme vous l'avez fait la diapo, il y a aussi un fonds spécifique qui est le fonds européen dédié dans le cadre du programme LEAD. Et pour répondre à ta question, non, on a vu de mémoire le pays, qui est une instance, comme chacun sait, d'animation, de planification, n'est pas gestionnaire, dépend des communautés de communes, qu'il faut convaincre, qu'il faut entraîner, ou de mairie, selon le cas. Et les collectivités toutes ensemble, les prises à peine, c'est de l'ordre de 30% de GES. Donc on se trouve dans un cas de figure qui par la nature n'est pas si différent que ça de celui de Paris.
Au départ, on avait imaginé, on a recherché des plans climat qui auraient pu correspondre à toutes les échelles de territoire en partant de la commune au national. Et en fait, on s'est aperçu au bout de deux ou trois plans climat que systématiquement on tombait dans le même schéma.
Mais si c'est possible, j'aimerais mettre un marqueur sur le mot territoire pertinent parce que je pense qu'il faudra qu'on le trouve.
Ça, je le ferai dans les périmètres.
Il y a des aspects qui me semblent être ressortis.
C'est le plus intéressant. Je voudrais juste rajouter. Areva n'a pas subventionné le plan climat parisien. Donc ça ne marche pas partout.
Non, mais en l'occurrence, voilà.
Paris n'a pas accepté que des déchets soient enfouis dans le sol parisien.
Deuxième chose, d'un point de vue méthodologique, parce qu'effectivement, ça n'était pas l'angle précisément sur lequel on travaillait. Mais il faut savoir, en tout cas à Paris, l'élaboration d'un plan climat est la suite logique d'un bilan carbone. C'est-à-dire que d'un point de vue, enfin, dans le genre outil léger à manier, à Paris, la question préalable, mais enfin, il y a une certaine logique, hein, la question préalable de l'élaboration du plan climat a été, bon, et alors, en termes d'émissions, on en est où ? Or, on avait zéro donnée, zéro. Donc, il a fallu élaborer ce bilan carbone qui a mille et un défauts qui évidemment ne concerne pas, ne peut pas prendre en compte toutes les émissions, mais qui, mine de rien, et je le vois de plus en plus avec les années qui passent, va servir de référence, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire, on parle de la référence Kyoto au niveau international. Je vois qu'à Paris, les études maintenant qui sont faites, voilà, bah, c'est une donnée à un instant T d'un travail qui a été fait. Voilà. Enfin, et c'est la base.
Le problème que j'évoquerai après quand même.
Ah, tu en parles,
d'accord. Ouais, il y a sur la partie technique, sur la méthodologie, le phénomène d'emboîtement et comment on compte en fait la comptabilité. Mmh. Enfin, pour résumer, en rentrant à la fiscalité carbone, il va bien falloir qu'on compte tout.
Ça va être la deuxième question.
Ouais. Donc grosso modo, voilà, les pistes d'analyse, c'est qu'on se rend compte que les plans climatuellement connus, privilégiés le niveau de l'étude et de la sensibilisation, mais qu'après le niveau de l'action, la programmation ou la mise en place, ou même ne serait-ce que trouver le financement pour accéder au changement, parce que même sur Paris, ça se résume, je ne veux pas faire péjoratif, mais ça se résume à quelques bâtiments, voire quartiers, avec un peu de photovoltaïque et de l'isolation digne de ce nom et qui pourrait correspondre aux normes qu'on peut envisager en 2020-2050. L'action sur quelques écoles, sur de la maîtrise de l'énergie, et ainsi de suite. Mais c'est, enfin,
oui, c'est-à-dire, globalement, et dans le pays barois, et là, c'est ça le point commun, c'est que ça se concerne essentiellement le patrimoine municipal. Et donc, voilà. C'est ce qu'on a appelé un plan climat patrimonial, et non pas territorial. Et c'est bien ça la question, parce que les collectivités, leur première leur première marge de manœuvre, c'est vraiment leur patrimoine. À Paris, ce n'est pas complètement anodin, quantitativement, mais c'est vrai que ça ne reste que...
Donc voilà, donc, partant de ce constat-là, on a essayé de hiérarchiser ça en trois niveaux d'analyse, là, que j'ai essayé de mettre en évidence. Donc une problématique qui est au niveau politique gouvernance, une problématique méthodologique et technique de comptabilité, et une problématique d'acceptabilité économique et sociale. Voilà. Donc là, on les prend dans l'ordre. Ça ne correspond pas au papier, mais c'était plus simple peut-être dans ce sens-là pour le PowerPoint. Donc au niveau du politique, on s'aperçoit sur le constat qu'il y a une grosse disparité de ressources et de besoins entre territoires, conduisant à des engagements différenciés et à des intérêts différenciés. Donc, faut quand même.
Non, c'était sur Paris, je voulais juste te dire une chose, c'est que ça peut paraître marginal d'intervenir sur le patrimoine parisien, mais ce que j'avais remarqué, c'est que le plan climat territorial de Paris ne prenait aucun engagement financier pour annuel, et c'est quand même la moindre des choses. Je veux dire, si déjà sur la plus petite chose, la plus facile sur laquelle on peut intervenir, il n'y a pas l'engagement financier en face, a fortiori sur ce qui est plus compliqué, ça risque pas trop d'avancer. Donc, ce qu'on peut regretter, ce que j'ai encore vécu dans le plan climat territorial de Paris, c'est qu'on a beaucoup de grandes déclarations, beaucoup de grandes intentions à des échelles très vastes, mais très concrets, etc. On aimerait déjà bien voir comment les traiter.
C'est commun à tout le monde, mais c'est vrai.
Attends,
bah, oui, mais
il y a juste une manière de noyer le poisson.
Non, mais
il y a juste une question, c'est que les objectifs qui sont quantifiés ne sont pas financiers, mais en revanche, ils sont précis sur la réduction des émissions. Or, l'objectif d'un plan climat...
Justement.
Oui, non, mais donc, à partir du moment où on a quantifié la réduction des émissions auxquelles on veut... C'est une autre façon de penser.
On va y revenir après. Je pense que on va y revenir après sur les méthodologies de comptabilité. Donc, on s'aperçoit donc une grosse disparité de ressources et de besoins entre territoires avec des engagements différenciés et des logiques différentes. On s'aperçoit, alors ça, c'est plus nous qui... On se repose excessivement sur le niveau local et on essaie de descendre à des échelons assez bas pour faire en sorte que les choses avancent, parce qu'on a l'impression que quand on prend les choses de façon plus micro, c'est plus facile à mettre en œuvre ou plus facile à traiter. Vous verrez que ce n'est pas forcément le cas. On parle là d'une approche bottom-up, ça arrive beaucoup, il faut que vous habituiez à ce mot-là, parce que même au niveau de l'Europe, au niveau de l'Europe, c'est la nouvelle, voilà. C'est-à-dire que c'est moins précis, on part du bas et on monte vers le haut, c'est-à-dire que grosso modo, l'idée au départ, c'est de se dire que c'est pas grave si on connaît pas tout, mais on laisse les cases vides, qu'on remplira au fur et à mesure de la connaissance et du temps, parce que malheureusement, sur le développement durable, et en l'occurrence sur ces questions-là, on n'est pas encore au fait, et scientifique, et technique, et donc ça va s'améliorer au fur et à mesure, on va encore découvrir des choses, il y a plein de faux amis dans ce qu'on est en train de traiter en ce moment, pour être très clair. Donc il faut se méfier, il faut le prendre avec des pincettes et éviter de faire l'ayatollah, pour être clair. Et donc, voilà, c'est la différence, en l'occurrence, de ce qu'évoquait Claire, entre une technologie bilan carbone qui est plus top-down, ce qui était la classique, c'est la logique d'inventaire, et là maintenant, la nouvelle logique est bottom-up, et donc en fait, c'est deux sortes d'outils différents qu'il faut absolument conserver, encore une fois, je tiens à préciser, et qui doivent avancer de façon parallèle. Mais qu'on ne peut pas merger. Alors je vous expliquerai après pourquoi, mais qu'on ne peut pas merger.
Qu'on ne peut pas quoi ?
Mélanger.
On ne peut pas mélanger.
Attends, mais la langue française est riche quand même. On peut trouver.
Donc voilà. Et ça, les coordinations au niveau des organisations supérieures type région, ça pourrait notamment permettre une spécialisation des efforts selon les spécificités territoriales. ça n'existe pas. On postule que les collectivités auraient un rôle déterminant alors que les sortes-gestes les plus importantes leur échappent. C'est ce qu'on est en train d'évoquer sur le patrimoine appartenant collectif. Donc l'habitat individuel, le transport individuel, ces choses-là, on a très peu de leviers d'action là-dessus.
À Paris, le tourisme.
Oui, le tourisme, il faut en rajouter. Enfin, là, voilà. Et ensuite, la clarification de la situation du plan climat dans la hiérarchie des normes est indispensable. C'est-à-dire qu'elle soulève une nécessité d'arbitrage, de répartition de compétences, de nature, et de l'aboutissement. C'est-à-dire que, vous allez voir, on doit aller vers une mutualisation, alors qu'en fait, tout est fait pour segmenter les choses et faire en sorte qu'on discute le moins possible ensemble.
Juste un tout petit commentaire sur ce que vient de dire Jacques. Si tout à l'heure je disais attention, on reviendra sur la notion de territoire pertinent, parce qu'il me semble que ce qui ressort quand même de cet aspect de notre travail, c'est que c'est trop tôt pour se poser cette question-là, à mesure où déjà en amont, il faut penser aux coordinations et si je peux me permettre un jeu de mots, il faut que le territoire soit drôlement pertinent et drôlement capable d'interpeller les échelons dont le travail est organisé avant qu'on puisse se poser cette question-là.
Alors ensuite, on rentre dans un deuxième niveau, c'est la responsabilité territoriale en matière de gestes. Donc, il y a une nécessité de comparabilité des bilans, une question qui est assez complexe, et si on veut être cohérent, c'est les objectifs territoriaux et l'efficacité des plans d'action à mettre en œuvre par rapport à une organisation des pouvoirs publics locaux. Et en fait, on doit aller de plus en plus vers une utilisation de la connaissance, parce qu'en fait, c'est très disparate. Il faut qu'on uniforme. Il y a une uniformisation, si vous voulez, de la comptabilité carbone qui est malheureusement nécessaire. Pas trop pour la centralisation, mais là, pour le coup, il faut que tout le monde puisse compter ensemble, que ce soit les entreprises, ainsi de suite. Enfin, moi, je le fais régulièrement. La vraie difficulté en ce moment, c'est de dire, mais on compte comment et on part sur quelle base. Bon, peu importe qu'elle soit juste ou pas. Enfin, entre guillemets, c'est la question où pas très juste. Mais en tout cas, il faut que tout le monde puisse compter de la même façon pour qu'il puisse y avoir emboîtement et qu'on puisse en fait comparer les bilans. Et la question qu'on se posait, c'est quel est le meilleur niveau pour conduire les types d'actions en s'inscrivant à la cohérence d'un cadre régional ou de la vérité de la collectivité. Alors, on rentre dans le détail, je trouvais ça intéressant, ce qu'il a fait, c'est une espèce. Enfin, là, il y a quand même trois outils juridiques et trois niveaux de hiérarchisation quant à la possibilité d'articuler ça. Il y a les schémas régionaux du climat, de l'énergie. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de la hiérarchisation territoriale française. Donc, c'est essentiellement préfet de région et conseillers régionaux. Donc, on est déjà plutôt à l'échelle régionale.
Ça, c'est dans le Grenelle.
C'est du texte de loi. Il a ressorti. Les outils existent. C'est-à-dire, normalement, ça doit fonctionner comme ça.
Ça fonctionne comme ça ou c'est le Grenelle 2, ça?
C'est le Grenelle
2.
Donc ça doit être approuvé par le Conseil régional. Donc on sent bien que la région devient de plus en plus prégnante. Et donc, vous allez devoir, enfin, je veux dire, chaque région va être obligée de se doter d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. Un bilan des émissions de gaz à effet de serre obligatoire pour l'État, les régions et les départements, les communes, les EPCI, plus de 50 000 habitants, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc quand même. Donc il va bien falloir pouvoir comparer tout ça, il faut que tout le monde compte de la même façon à un moment ou à un autre. Enfin, il y a plusieurs méthodologies, plusieurs outils qui existent, c'est ça un peu la difficulté.
Et ça au niveau européen
Et au niveau européen, enfin, ça s'est passé, ça s'est passé hier après-midi, en fait, ça commence à mûrir, et ils sont à la recherche d'un outil. Enfin, ça, je peux vous dire, parce que ça date d'hier après-midi, tout simplement. Ils sont en recherche d'un outil qui est déjà existant en France, qui appartient à la DIAC, qui est développé par la DIAC, qui s'appelle Necater, et qui est en fait un outil qui permet de faire l'évaluation ex-ante de tous les CPER et PO, donc de tous les contrats État-région et fonds européens, qui est pour l'instant centralisé au niveau des SGAR. Donc c'est les SGAR qu'on va l'utiliser, donc ça pose un certain nombre de problèmes de droits d'usage, d'utilisation, parce que c'est resté fermé, la région n'y a pas accès, et ainsi de suite, mais ça existe déjà. Et ensuite, le plan climat énergie territoriale, donc obligatoire pour les mêmes, sauf l'État, qui devra être réalisé avant le 31-12-2012. Donc ça arrive vite. Alors, question de cohérence des objectifs territoriaux est plus délicate dans la mesure où les PCET contrairement au Shrek, alors c'est schéma régionaux climat, air, énergie, c'est ça, je ne suis pas compris.
Les Shrek ?
Oui, alors ça, ça s'appelle, on appelle ça
c'est
les
déposé,
Shrek.
C'est
déposé. Dans le cadre du Grenelle 2, ça, enfin, alors là, je peux, ouais, je vais terminer ça, mais je dis, qui doivent viser les objectifs du paquet énergie, climat et formellement le facteur 4, laisse aux collectivités porteuses la responsabilité, écoutez bien ça, de définir les objectifs stratégiques et opérationnels en précisant qu'il s'agit des objectifs de la collectivité et non d'objectifs pour le territoire de la collectivité. C'est ce qu'on mettait en évidence tout à l'heure. Et c'est écrit comme ça. C'est énorme. Donc, je le note après, juste parce que sur les Shrek en ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une mission qui a été commandée par le président de la République qui a été confiée à un député du Grand Lyon qui s'appelle Havard.
Michel
Havard. Qui est en train de. Qui, depuis le mois d'août, puisque je crois que la lettre de mission a commencé le 19 août, depuis le mois d'août, est en train de répertorier toutes les méthodologies, outils existants actuellement en France et utilisés pour la comptabilisation, inventaire, et ainsi de suite, des gestes. Il doit rendre son rapport avant le 31 décembre, pour vous dire que ça va aller plus vite, pour pouvoir donner. Alors, j'ai la lettre de mission, si vous voulez la voir, je pourrais vous la montrer tout à l'heure. Le but du jeu, c'est. De définir un cadre de référence, en l'occurrence à voir avec les fameux Shrek, parce que concernant le Grenelle 2, à partir du mois de mars de l'année prochaine, il y a une série d'appels d'offres qui vont sortir.
Déjà avril-mai.
Avril-mai, ouais. Enfin, ça va. Mais...
Et le rapport d'Avar, il est discuté de mercredi prochain, commission.
Encore un sondage de dénoncer.
Ah, ouais, je suis le preneur. Clairement, on l'a vu deux fois. Donc. Et pour le coup, ouais, je suis intéressé de savoir par quel bout ils vont le prendre. Voilà. Donc, il y a quand même ce sentiment d'une uniformisation du contenu. Ensuite, alors, on rentre dans la partie technique, tout ce qui est méthodologie. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait faire attention à plusieurs choses, en l'occurrence, la définition d'un cadre de référence commun. Donc, c'est ce qu'on est en train d'évoquer. Donc, il faut définir le périmètre de comptabilité, l'introduction des doubles comptes. Je vais vous expliquer rapidement après avec un petit schéma à quoi ça correspond. Et la mesure des conséquences de la consommation énergétique et non des causes. La façon dont on consomme et pas la façon dont l'offre, dont on rentre dans un monde de demande qui va être prépondérant sur un monde d'offres. On est en train de basculer. C'est vachement important ça à garder en quasiment. Et ensuite, la notion de responsabilité directe et indirecte des territoires. C'est-à-dire, typiquement, je vais prendre Lyon pour ne pas reprendre Paris et faire le Parisien moyen, c'est il y a une autoroute. Qui traverse Lyon, est-ce qu'on lui affecte le transit routier ou pas et les émissions de gestes qui sont du fait que son territoire est traversé par la route.
Et donc,
quoi ?
Non, mais est-ce que moi, je peux poser des questions.
Oui, oui.
Est-ce que dans la même logique, une centrale thermique qui produirait de l'électricité avec du charbon dans un territoire produirait cette électricité pour 80% de gens, s'il peut à l'extérieur, comment on affecte ce que...
Donc voilà.
Ces émissions. Comment ?
Sur le territoire.
C'est sur le territoire, donc on a intérêt à mettre toutes les centrales thermiques à l'extérieur et chauffer l'électricité.
Alors après, il faut prendre en compte ça, justement.
C'est tout le problème.
Ça correspond à ce petit schéma, globalement, voilà. Il faut bien définir le périmètre et le territoire à étudier. Après, vous avez le fameux transit marchandise-personne pour lequel on n'est pas forcément responsable et qui est assez dur à comptabiliser, d'ailleurs, parce que c'est pas facile. Il n'y a pas d'origine destination, là, on ne sait pas à quel est le motif, rien, donc il faut juste compter les voitures. Les flux de marchandises, la mobilité longue distance et la mobilité pendulaire, pendulaire, c'est domicile-travail. Les fameux flux énergétiques, les matières premières, l'alimentation et les déchets. Donc voilà, après vous retrouvez le logement, industrie tertiaire, agriculture, élevage, donc qui correspond à ça. Donc le but du jeu, c'est juste de cartographier ça justement de façon intelligente et de ne pas forcément attribuer les émissions de GES, ou en tout cas de faire en sorte qu'une centrale thermique posée sur un territoire n'est pas forcément responsable d'incinérateur classique sur son territoire. On ne peut pas y affecter tous les GES. Donc il faut reprendre en compte et redéfinir tous les flux et les arrivées sortant. Sinon, on va comptabiliser.
Est-ce qu'on peut s'arrêter un tout petit peu là-dessus ? Parce que, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'avoir quelques explications. Quand vous dites éviter les doubles comptes, est-ce que tu peux donner un exemple de double compte ?
Non, mais par exemple, vous savez que dans les les mesures de lutte contre le changement climatique, vous avez deux grandes familles d'émissions. Les émissions qui sont le système énergétique et la grande industrie qui sont sous le système d'échange de quotas d'énergie avec des quotas, et tout le reste, c'est-à-dire les bâtiments, les transports, etc., qui sont dans la deuxième famille. Et donc ces deux familles, petit à petit, divergent du point de vue des actions. Donc on peut très bien imaginer que dans un territoire, on sera obligé de faire la différence. C'est-à-dire si vous avez une grande usine ou une centrale à charbon, elle relève du système des quotas, voilà, qui est un système différent. Et si vous avez la ville avec ses consommations, l'habitat, les transports, etc., elle relève de l'autre système. Et alors le risque des doubles comptages, c'est qu'on compte dans le système quotas toute la production de carbone, de CO2 liée à ces activités industrielles, qu'on les retrouve après au niveau du territoire, et que du coup, si on additionne les uns et les autres, on arrive à des erreurs. Donc, moi je trouve que plus le lieu est petit, plus c'est complètement idiot de faire des comptabilités précises, parce qu'on va... On a passé des nuits et des jours de savoir si l'usine qui est en bordure de la ville doit être comptée ou pas. Donc, déjà au niveau européen, c'est un peu compliqué. Au niveau d'un pays, on comprend. Il y a l'ensemble des industries, etc. Après, peut-être que le territoire de la région, et encore, il y a des régions qui sont importatrices d'énergie, et ce n'est pas du tout dramatique. Et d'autres qui sont exportatrices, ce n'est pas non plus dramatique. Et au niveau d'une ville, il faut faire des règles de trois. Parce que quel est l'intérêt de compter ou non les émissions du truc qui passe sur l'autoroute? Il faut les compter quelque part. Bon, alors, on peut les compter au niveau du pays, ça c'est clair, c'est au niveau des transports. Mais se casser la tête de calculer s'il faut les compter dans la ville de Lyon ou pas dans la ville de Lyon, sachant que la ville de Lyon, en tant que municipalité, ne peut pas grand-chose. Donc moi je pense qu'il faut, enfin j'y reviendrai, il faut absolument arriver à des simplifications, sinon vous allez tous passer des heures et des heures et des réunions sans fin inter-administration et entreprise, etc., pour arriver à des chiffres plus ou moins justes, et zéro temps sur les actions. Et ça c'est un problème fondamental, c'est qu'on accumule. On accumule des documents dont chacun demande un travail considérable. Et quelle est la valeur de précision sur les émissions de gaz à effet de serre d'une ville par rapport aux actions? À mon avis, c'est plus ou moins 20%. Et on s'en fout. On sait les secteurs où il y a des problèmes de consommation d'énergie, dans ces émissions. La discussion, c'est de savoir est-ce que je peux agir sur ces secteurs. Qu'est-ce que je peux faire? Combien je gagne? Donc j'ai besoin d'un référentiel qui ne soit pas trop faux. Et de là, à se casser la tête. Donc franchement, je pense que là, il y a de la part des collectivités locales et territoriales de réfléchir à cette question. On ne peut pas accumuler les travaux de caractère administratif dont l'utilité, à la limite, peut devenir nulle. Enfin, j'y reviendrai, mais je pense que vraiment c'est un problème fondamental de gouvernance. Enfin, de gouvernance, c'est de comment on répartit le temps de travail.
Oui, là,
ça remet aussi en cause le principe, vous parlez des collectivités territoriales, mais c'est la fameuse bouteille à langue de l'État exemplaire.
Mais bien sûr.
Dans mon administration de 70 personnes, on a fait un bilan carbone pour découvrir que le poste essentiel, c'est celui des agents qui se rendent au boulot et qui ont la donnée dessus.
Non, mais bon, j'y reviendrai, mais je pense qu'il y a des problèmes comme ça qu'il faut discuter.
Donc, voilà. Après, je reviens sur la partie, enfin, j'enchaîne parce que voilà.
Par rapport au travail qu'on a fait, il faut revenir directement aux comparaisons qu'on a fait. S'il y a des points communs, c'est vrai qu'il y a aussi des spécificités, c'est-à-dire le Pays barois et la ville de Paris, il faut quand même prendre un petit moment pour avoir une typologie des sources principales, sachant qu'elles ne sont pas les mêmes à Paris.
C'est voilà. Ça, c'est utile.
Voilà, c'est ça.
Donc on va voir ce qui est utile ou pas utile. Voilà. Mais savoir où on place notre route, c'est
ensuite, donc voilà, c'est comprendre, donc on veut mettre en place des outils, des politiques permettant donc les états des lieux, c'est ce qu'on vient d'évoquer, donc après, plus ou moins précis, une pédagogie pour impliquer toutes les parties prenantes, une une bonne compréhension des besoins. Encore une fois, on n'est plus dans une logique d'offre, on est dans une logique de besoins. Donc c'est quelque chose qui est prégnant, il faut bien le prendre en compte. Et de signer individuellement le démographique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses sur l'énergie, en l'occurrence, qui peuvent être importantes au niveau de la démographie. Je ne parle pas de la population, c'est des démographies, des systèmes, des composants, des ménages, ces choses-là. Et on se rend bien compte que sur la consommation électrique, en l'occurrence, on a de plus en plus d'appareils en veille, des choses qui restent en train de tourner, ainsi de suite, qui augmentent quand même assez considérablement la consommation électrique sans qu'on s'en rende compte. Il faut prendre ça en compte parce que c'est des choses qui sont assez importantes. Adapté au niveau de connaissances, donc en fonction des éléments de connaissances disponibles, parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on disait, mine de rien, c'est, on va dire, pas une science, mais c'est émergent, on ne se posait pas vraiment la question. On parle déjà de taxes carbone, je ne vois pas comment on va aller pouvoir compter dans une entreprise dans le détail. Enfin, c'est quelque chose d'éminemment compliqué, les logiques d'ACV, ainsi de suite, enfin, d'analyse de cycle de vie, ainsi de suite, c'est des choses qui sont compliquées et qui ne sont pas faciles à sortir. Et il faut surtout intégrer toujours cette temporalité, c'est-à-dire que dès l'instant qu'on rentre dans une logique de bilan ou d'état des lieux, il faut que ça puisse évoluer dans le temps. Il ne faut absolument pas que ce soit une photo. Il faut absolument qu'on trouve des choses qui puissent éventuellement être dynamiques, où vous puissiez enrichir au fur et à mesure que la connaissance avance, on puisse enrichir l'outil, et en l'occurrence vos outils d'aide à la décision, pour pouvoir avoir ces marges de manœuvre et voir les choses arriver avant qu'on aille dans le mur, pour être très clair. Donc grosso modo, juste rapidement, mais ça je pense que tout le monde est au courant, c'est qui consomme, qui émet. Donc en fait, le mieux c'est de faire une approche sectorielle. Le résidentiel, le tertiaire, le transport de personnes, le transport de marchandises, l'agriculture, l'industrie, les déchets, la production d'énergie. Donc ça, c'est à peu près établi, vous le retrouvez à peu près dans toutes les méthodologies, parce que voilà, on reprend la même nomenclature. Et donc voilà. Et des outils, moi je suis assez partisan d'outils assez fins pour pouvoir définir un format adapté aux besoins du territoire. Parce qu'en fait, justement, quand on descend tout petit, il faut quand même être assez précis si on veut avoir de la pertinence. Alors là, ah oui, je voulais juste les enjeux. Alors je vous sors juste un PowerPoint parce que ça, c'est. J'ai découvert lors des deux séminaires et tout le monde n'a pas forcément conscience. Donc là, vous avez le parc résidentiel, le parc immobilier français. D'accord. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais. Ouais, enfin, je suis désolé, il y a ces petits. Donc, ces maisons individuelles, c'est 51,7%. Les immeubles collectifs, 25%. Les bureaux, 5%. Les commerces et restaurants, 6%. Tout ce qui est enseignement santé, c'est 7% et 4%. Et vous allez voir que. Voilà. Donc, ça, c'est la consommation d'énergie par secteur, par typologie de bâti. Donc, vous voyez la maison individuelle, 63,2%. Et derrière, je vous mets les émissions de CO2 pour juste. C'est des choses qui me semblent importantes. Voilà. Sur le bâtiment, c'est ce qu'on a découvert aussi sur deux jours. Enfin, ça, tout le monde a un peu tombé. Alors, j'ai d'autres PowerPoints plus précis, mais dans le principe, ça suffit. Voilà les enjeux. C'est la maison individuelle, c'est le résidentiel. C'est 55% des émissions de GES juste sur le parc. Donc,
ton truc est un peu trompeur, hein, parce que c'est pas les surfaces. C'est les diamètres.
Ouais.
Non, c'est très différent. En effet visuel, on a l'impression que c'est. En fait, c'est 55%.
55%.
On a vu,
oui.
T'as un petit pourcentage au diamètre et non pas à la surface.
Ouais.
Ouais. Enfin, moi,
je. 50% des surfaces.
Si tu voulais faire passer le message, il est passé.
Et 55% de la
émission. Oui, si on regarde le chiffre, on
est. Il faut regarder le chiffre. Oui, pas regarder.
Ouais. Le diamètre, voilà. Non mais c'est important de voir les enjeux. Voilà.
Et
alors ensuite, on va rentrer, je vais passer assez vite, orientation de l'aménagement et politique énergétique. Donc voilà. Pour dégager les grandes lignes de la planification énergétique et du climat sur le territoire, il faut des politiques de réhabilitation. Enfin, c'est pour ça que je vous ai montré le PowerPoint d'avance, parce que ça passe par ça. Alors, si vous n'avez pas de levier, mais en tout cas, il va bien falloir y passer. Je vous montrerai une étude après. Un peu anxiogène. Adéquation de l'offre et de la demande. On arrête de rentrer dedans. Des solutions d'urbanisation bâtiment. Valorisation des ressources locales. Économie et substitution des énergies fossiles. Et ça, il faut aussi atteler. C'est pour toi. Évolution des réseaux énergétiques. Ça, c'est pour François. Et opportunité de green business. J'incorpore là-dedans parce qu'il faut bien le penser comme ça. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pas. de dire que ce n'est pas la fin du monde, c'est juste qu'il faut appréhender une nouvelle façon d'appréhender notre économie et notre business en général et la société. Et des axes reconnus. Ensuite, j'interviens, enfin, là-dessus c'est important, des axes et des recommandations dans des documents d'urbanisme et de planification de plus en plus. Alors, je sais que ça commence à être intégré dans les pays et les instituts, mais vraiment de plus en plus, on sent que ça devient prégnant. Et en fait, il y a deux choses qu'il faut bien différencier. Ça pour moi c'est quelque chose qui est important parce que nous, à l'étude au quotidien, on sait qu'on bloque souvent là-dessus, c'est qu'il y a deux niveaux de réflexion. Il y a une échelle territoriale et une échelle de projet. Et on quantifie pas, enfin c'est pas les mêmes méthodologies pour quantifier. Le projet c'est assez complexe pour être mis en place. Parce qu'en fait, il vous faut le projet pour pouvoir piloter, on va dire au quotidien ou dans la temporalité, de l'investissement et la direction dans laquelle vous allez, si jamais ça dérape, pour pouvoir réorienter et rester dans le cadre de ce que vous étiez fixé en termes de bilan GES. Maintenant, il faut quand même garder l'échelle du territoire parce qu'il faut quand même cette vision un peu plus macro pour voir quels sont les enjeux, quels sont vos leviers et les mises en place. Alors là, on rentre dans quel risque pour le territoire. Donc, les facteurs d'exposition du territoire au risque climatique. Donc, il y a des risques économiques, sociaux, environnementaux. Ça, j'apprends rien à personne. Donc, il faut s'occuper des entreprises, des ménages, de la santé, de la biodiversité et des infrastructures. Il y a des approches déjà menées sur d'autres territoires visant à alerter sur les facteurs de risque. Donc, c'est très important ça. Identification des sources bibliographiques exploitables, des organismes à rencontrer, recueil et mutualisation des données, des études existantes, des entretiens. Enfin, c'est mon quotidien. Si vous saviez le trésor que vous avez à chaque fois dans les différents services, DRIR, DDE, ainsi de suite, qui existent avec de la donnée et qui ne sont pas partagés et qui permettent de faire des choses qui sont à la fois intelligentes, qui permettent vraiment de vous fournir des outils dès la décision. Et il faut arrêter, enfin, je veux dire, l'enjeu, il est, on le disait au départ, international, il est mondial. Il faut vraiment jouer le jeu et il faut vraiment qu'on mutualise là-dessus. C'est un des facteurs en ce moment le plus bloquant, en tout cas, pour pouvoir faire l'analyse. Moi, il y a des choses sur Kanka, on est tombé sur des SIG absolument géniaux, des choses, enfin, on descend à l'échelle du bâtiment, enfin, on est capable de tout reconstituer. Donc, il faut absolument mutualiser, il faut accepter et il faut s'occuper de ça. C'est vraiment un axe majeur, à mon avis, au moins pour comprendre votre territoire et comment vous pouvez agir dessus. Alors, l'acceptabilité sociale, on en parlait tout à l'heure, donc il faut anticiper ça. Alors là, je vais vous revenir assez vite. Donc, la volonté des citoyens de modifier en profondeur, on l'a évoqué tout à l'heure. Enfin, je pense que c'est une bonne partie de la discussion après sur laquelle il faut rester dedans. C'est les comportements adoptés, les modes de vie plus neutres en émission de gaz à effet de serre. Et le fossé est difficile à franchir entre la connaissance, ce que j'évoquais avant, l'envie de changer, et puis surtout le passage à l'acte effectif qui, pour l'instant, n'existe pas clairement. Notamment en période de crise socio-économique, c'est encore plus sensible en ce moment. Le discours, c'est on n'a plus d'argent. Ben, si on n'a plus d'argent, voilà ce qui va se passer. Je termine juste là-dessus, c'est fini après. Je vais vous montrer quelque chose sur...
Si je peux faire une remarque méthodologique, l'exemple que tu traites, c'est pas ce qu'on a traité.
Non, celui-là, personnellement.
Est-ce qu'on peut le passer directement à la conclusion, puis on y reviendra éventuellement après, mais ça fait déjà une heure qu'on a commencé, sinon après on en a...
Non, mais c'est bon, il y en a encore une. Ben, je vais terminer là-dessus, juste que vous compreniez les enjeux, je vous montre juste trois cartes. J'insiste là-dessus parce que c'est important. Donc c'est une étude qui n'est pas encore sortie, qui a été faite sur le Nord-Pas-de-Calais, sur le logement et le déplacement. Ça sort un peu de Paris et de ce qu'on avait fait, c'est du RAM. Et donc, l'idée, c'est comment on atteint le facteur 4 sur la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà ce que ça donne. Donc, grosso modo, sur le schéma que vous avez à droite, c'est le montant du budget énergie par logement. Donc là, c'est communalisé. Donc, on est à l'échelle de la commune sur l'ensemble de la région. C'est communalisé en euros. Donc, actuellement, en haut, vous êtes à 2 980 euros à 3 740, donc en moyenne. Le budget énergie par commune, c'est sur le résidentiel, donc le résidentiel de base. Donc voilà ce que ça représente dans la part du budget énergie des ménages dans le Nord-Pas-de-Calais actuellement. Donc on est 331 communes à 3000 euros à peu près.
3000 euros par logement
par logement.
Par ménage et par an.
Donc vous l'avez à la 368.
Oui, c'est
ensuite,
ça.
À côté, vous avez la...
C'est par ménage et par an.
Ouais. Et ensuite, vous avez ici le transport. Donc, le budget de transport, on retrouve d'ailleurs, il y a une autoroute qui passe là, qui est frontalier, et comme par hasard, on retrouve les mêmes zones sur les communes. Donc, c'est le montant du budget de transport en euros actuellement, par commune, donc communalisée, donc ça va de 2000 euros la partie verte à 5600, voire 9800 euros. Il y a 320 communes en rouge, là. Toutes les communes en rouge sont entre, grosso modo, 6000 euros et 9000 euros du budget de transport. Alors je passe rapidement parce que c'est du domicile de travail. Là, on a additionné la problématique de budget logement plus transport par rapport au revenu médian du Nord-Pas-de-Calais. On ne comprend même pas les couches sociales les plus basses. Voilà ce que ça donne. C'est-à-dire que, grosso modo, toute la partie rose et rouge sont entre 30 et 50% en termes de budget pour l'énergie et le transport. Ça, c'est actuel. Voilà ce que ça va donner en termes, si on agit ou on n'agit pas, en termes de réhabilitation. Donc le budget énergie-logement en haut à gauche, sans réhabilitation en revenu médian. Le budget énergie-logement sans réhabilitation en 2020. Et la prospective, budget énergie-logement sans réhabilitation en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, vous avez quasiment entre 30 et 50% de la part du budget énergie sur l'ensemble du territoire. Voilà ce à quoi vous allez être confronté. Alors après, c'est de la modélisation, c'est plus ou moins juste, mais ça vous donne quand même un ordre d'idée des enjeux qui sont
auxquels. T'es sur un scénario pétrolier combien ?
Alors là, on est parti à 100 dollars le baril à l'actuel et on est à 200 dollars en 2050. C'est-à-dire 200 dollars, honnêtement, on est largement en dessous de ce qui va arriver. C'est juste. Voilà, 2020-2050, c'est pour ça, vous voyez, bon après, je vais peut-être pas être trop long, mais on a des courbes, enfin je voulais vous la montrer, elle sera dans la présentation PowerPoint. Si on réhabilite en 2000, voilà, réhabilitation en 2015, sur la courbe, comment on arrive à lisser la courbe, c'est, sans réhabilitation, vous avez la courbe bleue qui monte directement, donc on passe de 2000 euros par bâtiment ou maison individuelle, on passe à 7000 ou 8000 en 2050. Et donc voilà, si on fait ça, si on le fait qu'en 2015 et si on le fait en 2030. Donc c'est un peu le respect des enjeux. Je ne suis pas un grand spécialiste, donc voilà, cette chose-là. Et donc voilà, le coût du logement actuel, le coût de l'énergie du logement en 2050. Et donc voilà. Donc je voulais juste vous montrer ça, ça met juste en perspective ce qu'on était en train de dire. Voilà ce à quoi vous allez être confronté régulièrement. Alors maintenant on peut passer aux conclusions. Vous êtes attaqué là-dessus ou... C'est fini, hein, c'est la conclusion. Ouais. Donc grosso modo, il y a une mobilisation sociale à long terme, c'est-à-dire encore une fois cette logique de temporalité est fondamentale dans ce qu'on est en train de faire, et en tout cas dans le cadre d'un plan climat. Il y a en l'occurrence là, des méthodes de marketing social, d'ingénierie de projet. Donc là, il faut réinventer un nouveau système pour qu'il y ait adhésion et mise en place de ces choses-là. Une approche multi-acteurs, des partenariats bien encadrés et formés, c'est-à-dire que grosso modo, ce que disait Radan la dernière fois, c'est la première fois qu'on est confronté à un problème qui est mondial et qui nous concerne tous et auquel on ne pourra pas échapper. Donc il va bien falloir qu'on se mette tous autour d'une table et qu'on discute, parce que là, ce n'est pas question de nier. Un engagement politique fort des élus, enfin, de ce côté-là, on le sent dans la mise en place, mais il va vraiment falloir aller au charbon. Je ne vous dis pas, en Nord-Pas-de-Calais, pour aller annoncer une étude comme ça et commencer à la diffuser à la population, ils se posent des questions. Hein. On est dans les ateliers, on sait, très honnêtement, on ne sait pas par quel bout le prendre pour aller l'annoncer. Quoi. On sait pas comment, ils ne savent pas comment faire. Ça va pas rendre tout le monde de rester. Et donc ensuite, des cautions scientifiques fortes et indépendantes, parce que ce sujet-là va revenir de façon un peu systématique et il va falloir toujours cette caution de l'expert qui s'épouche. Approche des freins et des leviers. Une philosophie positive, non stigmatisante, éviter le côté anxiogène, même si le sujet, par définition, il est anxiogène, on n'a pas le choix. Et puis se fixer surtout des objectifs atteignables en fonction des contraintes quotidiennes des familles. Donc voilà, typiquement, c'est pour ça que j'ai insisté pour vous montrer un peu cette cartographie avant, c'est très light, mais il va bien falloir le prendre en compte.
Et qu'est-ce que c'est une caution scientifique?
Bernard Lapin. Ouais.
Juste derrière, il va enchaîner.
Non. Et,
faut qu'on... Encore une fois, je reviens.
Ça se pose sur les questions. Je pense que ça se pose par rapport aux gens sur les questions du climat, proprement dit, pas tellement sur
les émissions.
Pas tellement sur ce qu'on a dit là, sur les émissions possibles, mais est-ce que les gens croient vraiment ou non de tous ces phénomènes qu'on annonce sont très vraisemblables avec le risque que s'ils y croient, ils se disent, bon, de toute façon, je ne peux rien, je ne fais rien. Il y a vraiment cette ambiguïté aussi sur le fait d'annoncer des catastrophes et que ça soit cru. Alors que ça ne soit pas cru, auquel cas il ne se passe rien, et que ça soit cru, mais qu'il y ait une réaction de résignation, comme si c'était comme du temps de la guerre froide. On se résigne. Donc, je pense que c'est ça. Donc, il y a un gros problème à la fois d'informer sur effectivement les risques, immédiatement dire qu'il y a des choses à faire. Si on n'informe que sur les risques sans dire qu'il y a des choses à faire.
C'est un sujet qui est unique dans la conclusion, et sur lequel on ne peut pas simplement sur les aspects climat, énergie, mais sur beaucoup d'autres aspects, le nucléaire, etc. Je crois pas que ça tient dans les lignes.
Non.
C'est quoi la ligne?
Caution scientifique indépendante.
Caution scientifique forte et indépendante. Enfin, dans le principe.
Il y en a un qu'on connaît bien, Alain, dans le genre.
Après, c'est du débat, mais c'est important en tout cas. Le problème, c'est que, si vous voulez, le problème des GES, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est quelque chose qui est éminemment technique et quelque chose qui est, mine de rien, assez compliqué à appréhender. Donc, on a besoin quand même de cette, on va dire, de cette partie ingénieure ou de connaissances techniques et scientifiques pour pouvoir appréhender et coller, en fait, avec les enjeux politiques et sociaux. Et on peut pas les dissocier. C'est quand même surprenant. Enfin, moi, honnêtement, je suis tombé de l'arbre quand on fait un séminaire de deux jours et qu'on met en avant, dans le, ce que je disais tout à l'heure, sur le bâtiment, les véritables enjeux, et que tout le monde découvre que c'est résidentiel à 50 ou 60% qui est fondamental. Alors que, honnêtement, au début, alors, peut-être pas tout le monde, mais je dirais en grande majorité. Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en place. Mais pour pouvoir le déterminer, bah, il faut bien le calculer au départ et être sûr de ça.